J'ai une lecture donc dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, donc il s'agit d'un texte écrit par le prophète Jérémie qui relate, qui raconte l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et c'est vrai que ce texte nous concerne parce que nous sommes appelés, c'est le cas de le dire, nous sommes appelés à être appelés par Dieu, chacune et chacun de nous. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle, Dieu se manifeste auprès de nous, Dieu vient vers nous, Dieu nous parle, Dieu communique. Et il le fait naturellement parce qu'il est notre Père, et c'est le rôle naturel d'un Père que d'appeler ses enfants. Et il le fait aussi parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Il nous a créés parce qu'il a un plan pour chacun de nous. Et son projet, c'est que nous prenions part à ce plan. Il a un plan pour nos vies, il a un plan pour chacun de nous, et nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, et Dieu a un appel différent pour chacun d'entre nous. Mais nous avons quelque chose qui nous unit, c'est Jésus-Christ, et nous devons tous prendre part à ce plan plus grand que nous, qui est le plan de Dieu, qui est de sauver, de racheter l'humanité. Et nous avons tous un rôle à jouer dans ce plan. Alors, je me suis intéressé à cet appel de Jérémie. Un jour que je feuilletais ma Bible, je ne lisais pas particulièrement, mais je feuilletais ma Bible, et puis j'aime bien feuilleter, et puis m'arrêter sur certains passages, et puis je passe à d'autres, et puis mon œil vraiment a été attiré par ce texte qui concerne l'appel de Jérémie. C'est vraiment mon œil qui a été attiré, parce que j'ai vu une forme, en fait, dans ce texte, j'ai vu une forme poétique, j'ai vu une forme littéraire, en fait, qui a attiré l'attention de mon œil. Et donc, j'ai passé du temps à méditer ce texte, et ce que je voudrais partager avec vous ce soir, ce que j'ai reçu en méditant ce texte, c'est qu'en fait, Dieu nous parle par sa parole, il nous parle souvent, et c'est principalement ce qu'on cherche, mais il nous parle par le fond de sa pensée, et c'est ce qu'on essaye de trouver dans les textes bibliques. Et je trouve que celui-ci, en fait, nous dit des choses par sa forme. Il nous dit des choses autant par sa forme que par ce fond, et ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce que j'ai reçu, moi, sur la forme du texte. C'est un texte prophétique, mais il a une forme littéraire, il a une poésie, il a une écriture qui, je crois, en tout cas, c'est ce que j'ai reçu, nous dit des choses. Voilà. Et j'ai identifié quatre déclarations puissantes, mais vraiment puissantes, quatre déclarations qui sont toujours d'actualité aujourd'hui et qui doivent nous parler. La première, c'est que Dieu nous parle, Dieu communique, Dieu a un appel pour nous, il vient vers nous avec un appel et pour cela, il communique avec nous. Il nous parle, il dit des choses, même il les répète, il nous révèle des choses jusqu'à ce que nous les comprenions. Il communique avec nous. C'est la première déclaration. La deuxième déclaration, et celle-là aussi, elle est puissante et on a besoin de se le dire et se le répéter, c'est que Dieu est notre source. Dieu est la source de tout ce dont nous avons besoin. Et déjà à un niveau spirituel, il est la source de notre courage, il est la source de notre confiance, il est la source de notre force. Tout ça, nous le puisons en lui. Et c'est surtout ces deux points qu'on verra ce soir. On n'aura pas le temps de tout voir et je pense que si Dieu le permet, dans une deuxième partie, je dirai d'autres choses, notamment sur l'intimité que Dieu veut établir avec nous, la relation d'intimité qu'il veut établir avec nous, et puis sur le fait aussi que Dieu ne change pas. Dieu est éternel et nous pouvons compter sur lui jour après jour, quels que soient nos besoins. Donc la première déclaration, je le disais, c'est que Dieu nous appelle. Et pour nous appeler, Dieu vient vers nous, Dieu nous parle, Dieu dialogue avec nous. Il instaure une communication. Et c'est un point que j'ai perçu au travers d'une question que je me suis posée sur la raison pour laquelle Jérémie, le prophète Jérémie en tant qu'auteur, j'irais en tant qu'écrivain, quelle est la raison pour laquelle Jérémie a écrit ce texte? Quelle était son intention? Pourquoi Jérémie a écrit ce texte-là qui relate son appel? Jérémie était très jeune quand il a reçu cet appel. Bon, là, je n'ai pas précisé, mais certains disent qu'il avait autour de 17 ans, d'autres entre 20 et 30 ans, donc il était relativement jeune. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a écrit ce livre beaucoup plus tard, puisque Jérémie, chapitre 36, verset 1, précise la quatrième année de Joachim, donc le roi Joachim. Alors, que toujours dans le livre de Jérémie, au chapitre 1 et au verset 2, il est dit que la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, qui est un autre roi, la 13e année de son règne. Donc, ça veut dire que Jérémie a reçu cet appel la 13e année du roi Josias et qu'il l'a écrit la 4e année du roi Joachim. Entre le moment où il a reçu la pensée et le moment où il l'a écrite, j'ai fait le calcul, je ne vais pas vous le détailler ici, j'ai fait le calcul, mais c'est à peu près 22 ans. Ça veut dire que 22 ans après avoir reçu cet appel de Dieu, Jérémie a reçu toujours de la part de Dieu l'ordre de l'écrire. Et il l'a écrit sous cette forme-là. Et je pense que ce n'est pas tout à fait innocent que Jérémie ait écrit ce texte-là plus de 20 ans après, avec le niveau de détail qu'il y a sur l'appel, avec la forme qu'il y a donnée. S'il l'a fait, je pense que c'est parce qu'il veut attirer notre attention sur ces événements. Dans Jérémie, au chapitre 36, verset 1, toujours, il est dit que cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites. C'est la raison pour laquelle, donc plus de 20 ans après, Jérémie écrit le livre. C'est une commande de Dieu. Dieu lui demande d'écrire toutes les paroles qu'il lui a dites. Donc Jérémie va écrire ce livre et à ce moment-là, le roi Joachim, qui est un mauvais roi, c'est un roi qui méprise la parole de Dieu, c'est un roi qui méprise Dieu, le roi Joachim va détruire le livre. Il va le détruire avec un couteau, il va le couper avec un couteau, il va le jeter dans le feu. Et alors l'Éternel va dire à Jérémie, chapitre 36, verset 28, prends de nouveau un livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Donc il y a une insistance de Dieu pour réécrire. Il y a une insistance de Dieu pour que le message du prophète Jérémie, le message reçu par le prophète Jérémie lors de son appel, il y a une insistance de Dieu pour que ce message-là soit écrit, qu'il perdure. Donc il y a vraiment une intention pour que nous recevions ce message-là. C'est vrai que le prophète Jérémie, 20 ans après cet appel, alors que Dieu lui a demandé d'écrire toutes les paroles,
20 ans après, on peut oublier des paroles. Je sais pas vous, moi j'ai une très mauvaise mémoire. C'est pas sûr que si on me demande de réécrire ce que j'ai entendu il y a 22 ans, je le réécrive mot pour mot avec un sens du détail aussi poussé. Il y a de grandes chances pour que j'oublie beaucoup, beaucoup de choses. Je vais me rappeler vaguement de la conversation, mais avec ce niveau de détail, certainement pas. Donc Dieu a très certainement inspiré ce qu'a écrit Jérémie. Et si Jérémie a écrit l'appel, pour moi, c'est vraiment intentionnel, parce que il aurait pu comprendre de la part de Dieu que ce que Dieu lui demandait d'écrire, c'était les prophéties. Parce que pendant 20 ans, Jérémie a prophétisé. Pendant plus de 20 ans, Jérémie a prophétisé. Mais Jérémie n'oublie pas de mentionner l'appel, n'oublie pas d'écrire l'appel. C'est bien que ce passage-là, en fait, a une importance et qu'il est capital, qu'il figure dans le livre. Je pense qu'il y a trois raisons pour ça. La première, c'est que Jérémie, et sa vie le confirme, est obéissant, il obéit à Dieu. Et donc Dieu lui a demandé d'écrire toutes les paroles qu'il lui a dites. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que dans l'appel, on peut lire toutes les raisons pour lesquelles Dieu va demander à Jérémie de prophétiser. Tout est dedans. Toutes les raisons, toutes les causes, toutes les conséquences pour lesquelles Jérémie doit prophétiser, tout est contenu dans l'appel. Et donc il y a un lien, il y a un sens qui est donné à tout ce qui va suivre parce que Jérémie a reçu dans l'appel. Et puis enfin, je crois qu'il y a un témoignage. Jérémie, en fait, nous rend témoignage de la façon dont Dieu s'est approché de lui. Je disais tout à l'heure qu'on est tous concernés par l'appel de Dieu. Si nous sommes présents dans ce lieu, c'est parce que Dieu a un appel pour chacun de nous. Même si parfois on n'en a pas conscience, peut-être qu'on ne sait pas tous pourquoi on est là ce soir. Mais si on est là ce soir, c'est parce que Dieu a un appel pour nous. Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu veut nous parler. Dieu a un projet pour nos vies. On n'est pas là par hasard. Personne ce soir n'est là par hasard. On a tous répondu, d'une façon ou d'une autre, on a tous répondu à l'appel de Dieu. Et donc je crois que Jérémie veut nous rendre ce témoignage et que nous comprenions au travers de la forme avec laquelle Dieu s'approche de lui, que nous comprenions aussi comment Dieu peut s'approcher de nous. On disait tout à l'heure que nous sommes tous différents, je le crois vraiment, et l'appel qu'a reçu Jérémie, ce n'est pas l'appel que je recevrai, ce n'est pas l'appel que ce soit ici recevra, mais nous recevrons un appel. Et il y a des indices ici qui nous permettent de comprendre. Quand est-ce que Dieu nous parle, ce qu'il veut nous dire et comment il s'approche de nous? Un autre élément qui me fait dire que lors d'un appel, Dieu vraiment veut communiquer avec nous, c'est la structure du texte. Je disais tout à l'heure qu'il a une forme poétique. Et en fait, ce texte, il se décompose en quatre parties. La première partie, c'est des versets 4 à 8. Et c'est le début donc de l'appel de Jérémie. Et dans ces versets, il y a un dialogue. Il y a vraiment un dialogue entre Jérémie et Dieu. Jérémie dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et un peu plus loin au verset 6, je répondis. Et un peu plus loin au verset 7, et l'Éternel me dit. Voyez, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure là. Et dans cette première partie, ce qui est marquant, c'est ça, c'est qu'il y a une conversation qui s'installe entre Jérémie et Dieu. On est vraiment dans cette conversation. Dans une deuxième partie, au verset 9 et 10, on n'est plus dans la conversation, mais là on est dans la description d'une action, un geste que Dieu fait envers Jérémie. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Là on n'est plus dans le dialogue, là on est vraiment dans la description de ce que Dieu fait, l'agissement de Dieu vraiment sur la personne, c'est physique. C'est Dieu qui touche la bouche de Jérémie et il se passe quelque chose même physiquement. On n'est plus dans le dialogue, là on est dans le lien charnel, physique. Et puis juste après, donc versets 11 à 16, il y a un nouveau dialogue qui s'installe et c'est un dialogue qui tourne autour de visions. Il y a deux visions que l'Éternel présente à Jérémie. Il lui présente deux visions, la branche d'amandier et la chaudière bouillante. Et l'Éternel demande à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Et Dieu, une fois que Jérémie a répondu ce qu'il a vu, Dieu explique, Dieu révèle quel est le sens de la vision. Ça, c'est la troisième partie. Et puis la quatrième partie, versets 17 à 19. Là, on n'est plus ni dans le dialogue, ni dans la vision. Là, on est dans le monologue. Et dans cette partie-là, Dieu, de façon tout à fait solennelle, donne quelque part son ordre de mission à Jérémie. Il lui dit, voilà ce pourquoi je t'ai appelé, voilà ce que tu devras faire, voilà comment tu devras le faire. Donc on a, dans dans ces quatre phases, je crois qu'on a vraiment une illustration parfaite de la façon dont Dieu s'approche de nous. La première partie, le dialogue, c'est la rencontre. Et Dieu s'approche de nous et quand il s'approche de nous, il nous parle. Dieu nous parle. Et d'ailleurs, vous voyez que le texte commence d'abord par la parole de Dieu. Et après, Jérémie répond. Et après, Dieu a le dernier mot. Mais il y a un dialogue qui s'installe. Et c'est la rencontre avec Dieu. Je crois que quand on rencontre le Seigneur, on le rencontre dans notre cœur et on le rencontre par sa parole et on parle avec lui. Il y a un dialogue qui s'installe entre lui et nous. La deuxième partie, c'est celle qui va concerner la transformation. Dieu touche la bouche de Jérémie et tout d'un coup, Jérémie n'est plus le même homme. Celui qui ne pouvait pas parler, désormais peut parler et il peut porter le message de Dieu. Et donc, par ce geste, Dieu met ses paroles dans sa bouche et il y a là une transformation, comme une nouvelle naissance. C'est plus le même homme. La troisième partie, c'est la partie des visions. Vous avez vu, Dieu présente des visions à Jérémie, mais Jérémie ne sait pas. Jérémie voit une branche d'amandier, mais il ne sait pas dire pourquoi il voit une branche d'amandier. C'est Dieu qui lui explique. Et là, Dieu révèle sa pensée. Dieu révèle à Jérémie le sens de sa parole. Et puis enfin, la dernière partie, donc c'est la mission, c'est le service, c'est Dieu qui dit à son prophète, voilà ce à quoi je t'appelle, voilà ce que tu devras faire, voilà ce que j'attends de toi. Et vous aurez remarqué qu'en fait, Jérémie ne choisit pas. C'est Dieu qui parle, et toi, saint et reine, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Donc ce sont des verbes conjugués à l'impératif, ce sont des ordres. D'ailleurs, il dit ce que je t'ordonnerai. Donc Jérémie n'a pas le choix. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pour une chose bien précise. Ce n'est pas nous qui choisissons. Si nous disons, Seigneur, non, tu m'appelles dans ce service, mais moi, je me verrai plutôt bien dans celui-là. Je crois que cette pensée, en fait, ne nous appartient pas. C'est Dieu qui décide quand, comment et pourquoi il nous appelle, ce pourquoi il a besoin de nous. Et nous, nous sommes là pour obéir, tout simplement. Donc Dieu parle, Dieu agit, Dieu questionne, Dieu révèle, et puis Dieu ordonne et Dieu nous envoie. Et vous aurez noté que comme le prophète Jérémie, je crois qu'à un moment donné, il veut nous établir aussi. Une fois qu'il a fait tout ça, il a établi Jérémie. Être établi par Dieu, ce n'est pas être établi par n'importe qui. Quand on est établi par Dieu pour une mission, quand on est établi par Dieu pour un ministère, c'est fait par la puissance de Dieu, c'est fait par la puissance du Saint-Esprit, et c'est incontestable. Personne ne peut contester ça. Je parlais tout à l'heure de forme littéraire, et il y a un point qui, à mon avis, illustre bien le fait que je disais que Dieu nous parle et Dieu, à un moment donné, répète les choses aussi pour les ancrer quelque part dans notre cœur et puis pour que nous les retenions bien, parce que parfois on a tendance à oublier ce que Dieu attend de nous. Et je crois que le prophète Jérémie, en fait, l'illustre dans ce texte avec des répétitions. Il y a beaucoup de répétitions. Donc ça donne une poésie au texte, mais ça permet aussi de marteler comme ça des messages. Alors tout d'abord au verset 5. C'est la première répétition que j'ai notée. Alors, il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les citer, mais là, la première, elle est marquante quand même. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Avant que. Vraiment, il y a une insistance de Jérémie sur cet avant que. Et qui illustre ce qu'est Dieu en tant que créateur. Dieu est notre créateur. Si nous sommes conçus, c'est parce que Dieu nous a conçus. Et il est tout puissant. Comment peut-il nous connaître alors que nous ne sommes pas encore créés? Ça, c'est un mystère. Et là, je pense que c'est très bien révélé par justement cette répétition « avant que ». Comment peut-on connaître quelqu'un avant qu'il soit conçu? Comment peut-on connaître quelqu'un avant qu'il soit né? Ça, c'est un mystère. C'est puissant. Il y a une autre répétition, donc c'est au verset 10. Une répétition que j'ai notée. Il dit à Jérémie « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, pour que. Dieu explique pourquoi Jérémie est appelé, ce qu'il va faire, pourquoi il va le faire. Et là, on n'est plus face à l'enfant, même l'embryon. Là, on est face à l'homme, qui arrache, qui abat, qui ruine, qui détruit, qui bâtisse, qui plante. Là, on n'est plus face à un enfant, on n'est plus face à un nouveau-né. Là, on est face à un homme. Un peu plus loin, au verset 18, autre répétition. Et à ce moment-là, Dieu dit à Jérémie, je t'établis contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. contre est répété 4 fois. Contre, 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 contre. Et là aussi, je crois qu'il y a une insistance dans cette répétition pour marquer vraiment une étape supplémentaire qui est franchie ici par le prophète Jérémie. Ce n'est plus l'enfant et ce n'est plus l'homme, mais là, c'est le serviteur de Dieu. C'est le prophète qui est là. Et Dieu l'envoie contre le monde, en fait, puisque on parle des rois de Juda, on parle des chefs, on parle des sacrificateurs et du peuple du pays. Et on a là presque toutes les composantes de la société. On a le pouvoir royal, les rois de Juda, on a le pouvoir militaire ou le pouvoir économique, c'est les chefs. On a le pouvoir religieux, c'est les sacrificateurs. Et puis on a le pouvoir du peuple, le pouvoir populaire, le pouvoir social, le pouvoir d'influence qu'on peut avoir dans le monde. Et en fait, on voit là que toutes les composantes du monde en fait, sont réunies. Et on voit bien par cette répétition que Dieu appelle et rappelle et répète à Jérémie en fait, qu'il l'envoie contre le monde. Et au verset suivant, il lui dit, et ça vient choquer avec ce contre, « Je suis avec toi ». Donc contre, 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 mais je suis avec toi. Et puis la dernière répétition que j'ai notée, qui elle aussi est marquante, on la retrouve au verset 8 et au verset 19. L'Éternel dit à Jérémie, « Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Et là, il y a une répétition qui est très marquante, en fait, je crois qui est centrale même dans ce texte, que Dieu rappelle à Jérémie que oui, il y aura des épreuves, oui, ça va être difficile, mais il peut compter sur le soutien de l'Éternel. Et Dieu nous fortifie par ses promesses. Et il les rappelle ici. Il les rappelle 2 fois. Je suis avec toi pour te délivrer. Dieu nous fortifie par le rappel de ses promesses. Et le rappel de ses promesses nous fait du bien. Le rappel de ses promesses nous fortifie à nous aussi. Donc voilà toutes ces choses qui me font dire qu'il y a cette déclaration que quand Dieu appelle, ben Dieu le fait par la communication, par l'échange, par le dialogue. Il veut nous toucher par sa parole. Et ce texte est beau, je trouve, parce que alors c'est un texte prophétique, mais je disais tout à l'heure, il a une écriture poétique et il y a une forme littéraire ici qui donne de la poésie au texte. Et Dieu se révèle ici, et on voit qu'il se révèle par le dialogue, il se révèle par des gestes, il se révèle par des visions, et puis il se révèle aussi par des déclarations très fortes, très, très puissantes. La deuxième déclaration que je vois dans ce texte et qui est importante aussi, c'est que Dieu, je le disais tout à l'heure, c'est la source de notre force, c'est la source de notre courage, c'est la source de notre capacité tous les jours à résister, à aller de l'avant. Tout ce dont on a besoin, en fait, pour avancer dans la vie, en fait, on le trouve en l'Éternel. On le trouve en Christ et nulle part ailleurs. C'est essentiel pour nous. Ce qui me fait dire ça, c'est le contexte dans lequel vivait le prophète Jérémie. Et ce qu'on retrouve aussi au travers de ce contexte, ce qu'on retrouve dans le texte ici. Le prophète Jérémie, il a vécu à une époque très difficile, en fait, puisqu'il était prophète dans le pays de Juda, dans le royaume de Juda, ce qu'on appelle le royaume du Sud, donc à peu près 600 ans avant la naissance de Jésus. Et c'était une époque très difficile, parce que les rois étaient très pervertis. Les rois étaient contre Dieu. Les rois étaient les rois d'Israël, les rois de Juda. Avait tourné le dos à Dieu et guidé le peuple dans l'idolâtrie. Alors Jérémie avait connu le roi Josias, qui était un roi favorable à Dieu, qui avait essayé de faire des réformes et qui avait essayé de ramener le peuple à Dieu, mais ça n'avait pas marché, car le peuple était vraiment rebelle et le peuple était tourné le dos à Dieu, était corrompu et était enfermé, vraiment ancré dans l'idolâtrie. Et Jérémie, lui, vivait à cette époque, et à part le roi Josias, les rois qui sont venus après auront été des rois contraires à la parole de Dieu et qui étaient contre Dieu. Jérémie, lui, s'est dit au chapitre 1, verset 1, Jérémie, parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. Jérémie était le fils d'un sacrificateur. Donc Jérémie connaissait la parole de Dieu. D'ailleurs, Jérémie signifie celui que Dieu a désigné. Donc, vous savez que les prénoms donnés à cette époque-là étaient des prénoms donnés vraiment avec une intention qui correspondait à une situation, qui correspondait à une parole de Dieu. Et donc, Jérémie était destiné à servir Dieu, puisqu'on l'avait appelé celui que Dieu a désigné. Et donc, il était le fils d'un sacrificateur d'Anatote. Et Anatote, c'était une des 48 villes il y avait 48 villes qui étaient données aux Lévites. Lorsque Josué a fait le partage du pays de Canaan, on retrouve ça, j'ai noté la référence dans Josué au chapitre 21, verset 18, si vous voulez le regarder. Anatote était l'une des 48 villes qui étaient réservées aux Lévites. Et son père était l'un des sacrificateurs de la ville. Donc Jérémie connaissait la parole de Dieu. Très certainement qu'il avait grandi avec la parole de Dieu, qu'il savait qui était Dieu, il savait ce qu'était un prophète. Et malgré tout, lorsqu'il reçoit cet appel, en fait, Jérémie va suivre Dieu. Je pense que Jérémie savait pertinemment que ce à quoi Dieu l'appelait serait difficile pour lui. D'ailleurs, on voit bien avec quel niveau de détail Dieu appelle Jérémie. Il ne lui cache rien. Dieu ne cache rien à Jérémie. Le fait qu'il sera abandonné, le fait qu'il sera brutalisé, le fait qu'il trouvera en face de lui de l'opposition, tout ça, Dieu ne le cache pas à Jérémie. Et malgré tout, Jérémie va suivre l'appel de Dieu. Bien qu'il ait connaissance de tout ça, il va suivre l'appel de Dieu. Et je suis convaincu que s'il le fait, c'est parce qu'il a une confiance absolue en Dieu. Je pense qu'il a vraiment confiance dans le fait que Dieu est la source de tous ses besoins. Qu'il pourra le faire parce que Dieu va l'accompagner. D'ailleurs, à plusieurs reprises, Dieu le rassure en lui disant, j'ai noté quelques passages, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne tremble pas en leur présence. » Il lui dit aussi, « Je t'établis. » Voilà, Dieu vraiment le rassure. Dieu lui donne une confiance. Dieu lui donne une force qui sera nécessaire. Et cette force-là ne peut venir vraiment que de Dieu. Derrière cet appel, Jérémie, pendant plus de 20 ans, va prophétiser pour rien, en fait. Parce qu'à l'issue de cette période de prophétie, l'ennemi de Babylone va venir et va quand même s'emparer de la ville. Le peuple ne se sera pas tourné vers Dieu. Le peuple va être exilé. Et Jérémie aura prêché pour rien, en fait. Pas pour rien, parce qu'il a obéi à Dieu et ce qu'il devait faire, il l'a fait. Mais pendant 20 ans, il a eu cette capacité à résister malgré toutes les oppositions, parce que tout le monde lui a tourné le dos, sa famille, ses amis. Il avait de l'opposition, il a été brutalisé, il a reçu des coups, il a été moqué. Et malgré toutes ces oppositions, pendant plus de 20 ans, Jérémie a continué de prêcher le message que Dieu lui demandait de prêcher. Même si c'était un message impopulaire, même si c'était un message dur à entendre, certainement dur à exprimer à certains moments. Et Jérémie prêchait ce message par obéissance pour Dieu, mais certainement aussi qu'il le prêchait par amour pour le peuple. Et en fait, il n'a jamais failli. Il a toujours, toujours prêché le message que Dieu lui demandait de prêcher pendant plus de 20 ans. Un lourd fardeau pour lui. Et je suis certain, et c'est ce qu'on retrouve dans ce texte, que si Jérémie l'a fait, c'est parce qu'il a puisé toute la force et le courage nécessaire en Dieu. Un détail qui n'en est pas un certainement, mais qui a attiré mon attention aussi, ce sont les mots de liaison que Jérémie utilise pour décrire son appel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous alliez à l'école, on nous enseignait ce qu'étaient les conjonctions de coordination. Ça vous dit quelque chose? Mais où est Ornicar? Vous vous rappelez de ça? Bon, mais les conjonctions de coordination, il y en a beaucoup dans le passage. Et la particularité des conjonctions de coordination, c'est qu'elles sont là pour introduire une conséquence, une explication. En fait, quand on utilise ces mots-là, c'est pour donner une explication. Et notamment le mot « car » qui est beaucoup utilisé, donc au verset 7 par exemple, « Ne dis pas « je suis un enfant » car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. » Donc on pourrait dire la chose à l'envers, on pourrait dire « tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, donc ne dis pas « je suis un enfant ». Mais là en fait, c'est utilisé dans l'autre sens, c'est qu'en fait, Jérémie veut vraiment aller au bout de l'explication, il veut donner l'explication, le détail de pourquoi il fait les choses. Ne dis pas « je suis un enfant » car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est vraiment, on peut noter ici vraiment que Dieu est une source de confiance pour Jérémie. Au verset 8, « Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer. » Et là on voit que Dieu joue un rôle de secours aussi, de sécurité, une source de sécurité pour Jérémie. Au verset 12, « Tu as bien vu car je veille sur ma parole. » Car je veille sur ma parole. Dieu donne une certitude à Jérémie. La parole que tu vas annoncer, c'est ma parole, et je veille sur ma parole. Au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Là, il y a deux, deux mots de liaison, mais ils ne te vaincront pas, et car je suis avec toi. Vraiment là, Dieu est encore une source de force et d'autorité. Il va transmettre tout ça à Jérémie. Jérémie aurait pu se contenter d'écrire tout simplement Dieu m'a dit de parler au peuple, il m'a assuré qu'il serait avec moi. Ça veut dire la même chose. En très peu de mots, j'ai résumé en gros tout ce qu'on a dit avant. Mais en fait, il ne l'a pas écrit comme ça. Et je suis convaincu que s'il l'a écrit avec ce niveau de détails et d'explications en utilisant ces mots de liaison, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on comprenne le sens de ce soutien, de cette force, de ce courage qu'il reçoit de la part de Dieu. Un autre point, c'est les parallèles qu'utilise Jérémie. Il y a beaucoup de parallèles. Je l'ai dit tout à l'heure, avant que, pour que tu arraches, pour que. Et toutes ces répétitions, là aussi, nous font comprendre à quel point, dans la forme littéraire, Jérémie veut souligner la puissance de Dieu, la puissance de la source de vie que représente Dieu pour lui. Je disais tout à l'heure, donc Dieu est le créateur, donc on voit au départ qu'il s'adresse à un enfant, puis s'adresse à un homme, et cet homme-là devient un serviteur, il devient un prophète, et à la fin, il devient une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Et on voit que petit à petit, en fait, cette source dans laquelle Jérémie puise sa force, cette source-là, le fait grandir, cette source-là, le fait devenir quelque chose qu'il n'aurait peut-être jamais imaginé devenir. Je ne sais pas si parfois vous y repensez, mais comment vous étiez avant de connaître Dieu? Et quel chemin vous avez fait depuis? Qu'a apporté Dieu dans votre vie? Qu'est-ce qu'il a opéré comme transformation? Est-ce que avant de connaître Dieu, vous auriez imaginé devenir la personne que vous êtes devenue? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ce chemin-là, et je crois que dans ce texte-là, on retrouve ça aussi. Jérémie, au travers de la façon dont il écrit les choses, je crois, veut nous faire comprendre à quel point Dieu nous fait grandir. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes qui ont une relation avec Dieu, et ces deux aspects de la relation avec Dieu ressortent dans les relations de Dieu avec les hommes et les femmes de la Bible. C'est la communication et puis le fait qu'il soit leur source, leur force. Et je voudrais terminer avec l'exemple de Jésus lui-même, puisque Jésus lui-même considérait Dieu comme son confident, et il considérait Dieu comme sa source. Et je voudrais partager avec vous donc quelques versets dans Luc, chapitre 22, versets 39 à 43. Jésus est dans le jardin de Gethsémané, donc il est face à la mort. Il sait que le calvaire l'attend, et Jésus est à l'agonie, et il ne trouve pas en lui la force d'aller vers cette coupe de souffrance, cette coupe d'agonie. Alors il se retire dans le lieu secret, il se retire dans le jardin de Gethsémané, et là il va prier et il va renouveler ses forces dans la prière. Après être sorti, il alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors qu'il priait dans ce jardin, Dieu, son Père, lui envoie un ange pour le fortifier. Donc je me dis que si Jésus lui-même, à ce moment-là, a besoin de s'isoler, de parler avec Dieu, de prier, de rechercher ses forces en lui, puisque l'ange envoyé par Dieu est envoyé pour le fortifier. Si Jésus lui-même a besoin de ça, à combien plus forte raison nous-mêmes, nous en avons besoin aussi. Et je crois qu'il y a ce parallèle entre l'appel de Jérémie et puis ce passage où Jésus parle avec Dieu et demande à Dieu de le fortifier, et vient se ressourcer dans la présence de Dieu. Et je crois que ça nous dit aussi que quand nous sommes épuisés, fatigués, rappelons-nous que nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu, de parler avec lui. C'est à ce moment-là qu'il va nous réconforter, c'est à ce moment-là qu'il va nous parler, c'est à ce moment-là aussi qu'il va nous régénérer. Amen. Voilà. Et si Dieu veut, dans une deuxième partie, je vous parlerai de l'intimité que Dieu veut créer avec nous. Et puis aussi, du fait que nous pouvons compter sur lui en toutes circonstances, c'est des choses aussi que j'ai vues dans ce texte. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Oh, nous avons tellement soif de ta parole, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as inspiré cette parole pour qu'elle touche nos cœurs, pour qu'elle nous fasse du bien, pour qu'elle vienne nous dire des choses. Et ce soir encore, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que ta parole pour nous a une valeur immense. Ce sont quelques versets, très peu de versets, et ta parole en contient beaucoup, mais nous voyons qu'en très peu de versets, tu peux nous dire tellement de choses, Seigneur. Merci de nous révéler encore ta parole, merci de nous faire du bien par ta présence, Seigneur. Nous nous attendons à recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Oui, nous attendons à recevoir un appel de toi, Seigneur. Nous ne savons pas forcément à quoi tu vas nous appeler, Seigneur, mais nous voulons te dire que nous sommes là pour répondre présent, Seigneur. Ce soir encore, viens nous parler, Seigneur. Viens nous faire du bien. Seigneur, apporte une parole à chacune des personnes présentes dans ce lieu, Seigneur, que chaque personne présente ici et qui est venue ce soir puisse comprendre que tu étais présent et que tu voulais lui parler, que tu voulais dire quelque chose à son cœur, que cette personne-là est importante à tes yeux, que tu t'intéresses à elle, tu t'intéresses à sa vie et tu veux lui faire du bien, tu veux l'accompagner. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu es vivant, Seigneur. Croyons que tu reviens bientôt, te rendons grâce pour ton amour, ta fidélité, Jésus. Amen.